Chapitre 41. Quand finalement l'ordre arrive de libérer le père capitaine de Soya de son assignation virtuelle à résidence chez les légionnaires du Christ, il n'émane pas du Saint-Office de l'Inquisition, comme on pourrait s'y attendre, mais est transmis en personne par Monseigneur Luca Oddi, adjoint du secrétaire d'État du Vatican, son Excellence Simon Augustino, cardinal de Lourdes-Samy. De Soya est impressionné au plus haut point par la traversée des jardins de la Cité du Vatican. Tout ce qu'il voit et entend, le ciel bleu pâle de Passem, les battements d'ailes des bouvreuils dans les vergers de poires, le son feutré des cloches appelant aux vêpres, fait monter en lui une émotion telle qu'il a fort à faire pour contenir ses larmes. Monseigneur Oddi bavarde gaiement tout en marchant. Il mêle les menus potins du Vatican aux plaisanteries légères d'une manière qui fait bourdonner les oreilles du père capitaine longtemps après qu'ils ont dépassé la partie du jardin où les abeilles s'activent au milieu des massifs floraux. De Soya reporte son attention sur le vieillard qui le conduit d'un pas allègre. Oddi est d'une taille supérieure à la moyenne et il semble glisser sur le chemin, ses jambes silencieuses sous la longue soutane. Son visage de Monseigneur est mince et rusé, ses rides dénotent de nombreuses années de rire et d'ironie. Son long nez crochu semble renifler l'air du Vatican pour en prendre la température et en capter les humeurs. De Soya a souvent entendu des plaisanteries à son sujet et à celui de son supérieur, le cardinal de Lourdes-Samy. Sans le redoutable pouvoir qu'il détienne, il formerait une paire presque comique. De Soya est momentanément surpris lorsqu'il débouche du jardin pour monter dans l'un des ascenseurs extérieurs qui desservent les loggias du palais du Vatican. Des gardes suisses, vêtus de leurs rutilants et antiques uniformes à rayures rouges, bleues et orangées, se mettent au garde-à-vous lorsqu'ils entrent, puis sortent de la cage d'ascenseur grillagée. Ici, les gardes sont armés de longues piques, mais De Soya n'ignore pas qu'elles peuvent éventuellement faire fonction d'armes pulsantes.
Vous vous souvenez peut-être que Sa Sainteté, à sa première résurrection, a décidé de réoccuper ce niveau en raison de son affection pour son homonyme, Jules II,
déclare Monseigneur Oddi en désignant le long couloir d'un ample mouvement du bras. Oui, répond De Soya. Les battements de son cœur s'accélèrent. Jules II, le célèbre pape guerrier qui fit décorer le plafond de la Sixtine durant son règne, de 1503 à 1513 après Jésus-Christ, fut le premier à habiter ces quartiers. Aujourd'hui, le pape Jules, dans toutes ses réincarnations de Jules VI à Jules XIV, totalise un règne environ 27 fois plus long que celui du pape guerrier, qui ne dura que 10 ans. Il n'arrive pas à imaginer qu'il va peut-être rencontrer le Saint-Père. Il s'efforce de rester calme extérieurement, mais ses paumes sont moites et sa respiration beaucoup trop rapide.
« Nous allons voir le secrétaire, naturellement, »
explique Oddi en souriant.
« Mais si vous n'avez jamais vu les appartements pontificaux, ce sera une visite agréable. Sa Sainteté est en réunion pour toute la journée avec le synode interstellaire des évêques dans le petit salon du bâtiment Nervi. »
De Soya hoche gravement la tête. En vérité, son attention est captivée par les stances de Raphaël qu'il aperçoit sur son passage par les portes ouvertes des appartements pontificaux. Il en connaît les grandes lignes historiques. Le pape Jules II, fatigué des fresques démodées de génies mineurs tels Piero della Francesca et Andrea del Castagno, fit venir d'Urbino, à l'automne 1508, un jeune génie de 26 ans nommé Raffaello Stanzio, également connu sous le nom de Raphaël. Dans l'une des chambres devant lesquelles il passe, De Soya aperçoit la Stanza della Segnatura, une fresque imposante qui représente le triomphe de la vérité religieuse opposé au triomphe de la vérité philosophique et scientifique.
« Ah !» fait Monseigneur Oddi en s'arrêtant pour que De Soya puisse admirer le chef-d'œuvre. « Vous aimez ça, hein ? Vous voyez Platon, là, parmi les philosophes ?»«
Oui, » fait De Soya.
« Savez-vous à qui il ressemble en réalité ? Qui a servi de modèle ?»«
Non. »«
Léonard de Vinci, »
fait le Monseigneur en esquissant un petit sourire.
« Et Héraclite, vous le reconnaissez ? Vous voulez savoir qui a servi pour lui de modèle, Raphaël ?
De Soya ne peut que secouer négativement la tête. Il se souvient de sa petite chapelle marialiste en pisée sur son monde natal, où le vent de sable s'engouffrait continuellement sous la porte, formant de petites dunes sous la statue rudimentaire de la Vierge.
« Héraclite, c'était Michel-Ange, » continue Monseigneur Audi. « Et Euclide, là, vous le voyez ? C'était Bramante. Rapprochez-vous, n'ayez pas peur !»
De Soya ose à peine fouler aux pieds le somptueux tapis. Les fresques, les statues, les moulures dorées et les fenêtres hautes semblent danser la farandole autour de lui.
« Vous voyez ces lettres-là sous le col de Bramante ? Penchez-vous en avant, là. Que lisez-vous, mon fils ?»
R.U.S.M. Des chiffres de Soya.
« C'est bien ça, oui, » glousse Audi. « Raphaël Urbinus Suamanu. Allons, mon fils, un petit effort. Traduisez ces mots à un vieil homme. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié de réviser votre latin cette semaine. »
Raphaël d'Urbino, murmure de Soya, plus pour lui-même que pour Luca Audi. Fait de sa main.
Tout juste. Allons, venez maintenant. Nous allons prendre l'ascenseur pontifical pour descendre dans les appartements. Il ne faut pas faire attendre le secrétaire.
L'appartement Borgia occupe une grande partie du rez-de-chaussée de cette aile du palais. Ils entrent par la petite chapelle de Nicolas V, et le père capitaine de Soya se dit qu'il n'a jamais vu d'œuvre de la main de l'homme plus admirable que cette petite pièce. Les fresques, peintes par Fra Angelico entre 1447 et 1449 après Jésus-Christ, sont l'essence même de la simplicité, l'avatar de la pureté. Après la chapelle, les chambres de l'appartement Borgia deviennent plus sombres et plus sinistres, un peu comme l'histoire de l'Église sous le règne des papes Borgia. Mais en passant devant la salle 4, le bureau privé du pape Alexandre, dédié aux sciences et aux arts libéraux, De Soya commence à apprécier la puissance des riches couleurs, l'application extravagante des dorures à la feuille d'or et l'usage somptueux du stuc. La salle 5 décrit la vie des saints à travers les fresques et la statuaire, mais possède un côté stylisé, presque inhumain, que De Soya associe aux vieilles représentations qu'il a eu l'occasion de voir de l'art égyptien de l'ancienne terre. La salle 6, la salle à manger du pape, d'après le Monsignor, explore les mystères de la foi en une explosion de couleurs et de formes qui laisse De Soya littéralement muet. Monsignor Audi s'arrête devant une large fresque de la résurrection et pointe deux doigts en direction d'un personnage secondaire dont la piété intense est ressentie à travers les siècles de couleurs passées.
« Le pape Alexandre VI, » murmure-t-il, « le deuxième pape Borgia. »
Il agite la main de manière presque négligente vers les deux hommes qui se tiennent un peu à l'écart dans la fresque très dense. Ils ont tous les deux une expression généralement réservée à des saints.
« César Borgia, » explique Audi. Le bâtard du pape Alexandre VI. Celui qui se tient à côté de lui est son frère, qu'il a assassiné plus tard. La fille du pape Lucrèce était représentée dans la salle 5, vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Elle figurait sous les traits de Catherine d'Alexandrie, la Vierge Sainte.
De Soya ne peut couvrir de grands yeux devant ce spectacle. Il lève la tête au plafond et voit le motif que l'on retrouve dans chacune de ses chambres, composé d'une couronne et d'un taureau lumineux, l'emblème des Borgia.
« C'est Pinturicchio qui a peint tout cela »,
déclare Monseigneur Audi en poursuivant son chemin.
« Son vrai nom était Bernardo di Beto et il avait l'esprit complètement dérangé. C'était peut-être un serviteur des ténèbres. »
Il s'arrête pour se tourner vers la chambre, tandis que les gardes suisses rectifient la position.
« Presque certainement un génie au demeurant, » murmure-t-il. « Mais venez, c'est l'heure de votre audience. »
Le cardinal Lourdussami attend dans la salle 6, derrière un long bureau bas. C'est la Sala dei Pontifici, ou salle des papes. Le personnage corpulent ne se lève pas, mais se penche sur le côté dans son fauteuil, tandis que le père capitaine de Soya est annoncé et que l'autorisation d'approcher lui est donnée. De Soya met un genou à terre et baise l'anneau du cardinal. Lourdussami lui tapote la tête, et fait un geste qui met un terme à toutes ces formalités.
« Prenez ce siège, mon fils, » murmure-t-il. « Mettez-vous à l'aise. Je vous assure que cette petite chaise est bien plus confortable que l'espèce de trône à dossier droit qu'ils me font utiliser. »
De Soya avait presque oublié la voix du cardinal. C'est une basse puissante qui semble monter des entrailles de la terre et pas seulement de celles de son corps massif. L'Ourdus Ami est un personnage énorme, enveloppé de soie rouge, de lin blanc et de velours pourpre. Un vrai massif géologique humain qui culmine en une large tête surmontant de multiples replis de menton, une petite bouche, des yeux ronds, minuscules et mobiles, et un crâne presque chauve agrémenté d'une calotte pourpre.
« Federico, tonne-t-il, je me réjouis d'apprendre que vous avez traversé tant de morts et d'obstacles sans trop en pâtir. Vous avez une mine splendide, mon fils, un peu fatigué, mais splendide. »
« Merci, votre éminence, » fait De Soya. Monseigneur Oddi a pris un siège à la gauche du prêtre-capitaine, un peu à l'écart de la table de travail du cardinal.
« Je crois comprendre que vous êtes passé hier devant le tribunal du Saint-Office, »
gronde le cardinal Ourdus Ami en fixant De Soya de son regard perçant. « Oui, votre éminence. »
« Ils ne vous ont pas mis les poussettes, j'espère. Pas de vierge de Nuremberg ni de tison ardent. Ils vous ont fait passer au chevalet.
Le gloussement de rire du cardinal semble se répercuter à l'intérieur de sa poitrine massive. « Non, votre éminence, » répond De Soya avec un sourire forcé.
« Parfait, parfait !»
déclare le cardinal tandis que la lumière du lustre, suspendue au plafond 10 mètres plus haut, fait étinceler son anneau.
Lorsque Sa Sainteté a ordonné au Saint-Office de reprendre son ancien titre, l'Inquisition, quelques non-croyants se sont dit que les jours de folie et de terreur allaient revenir dans l'Église. Mais ils savent maintenant que ce n'est pas le cas, Federico. Le seul pouvoir du Saint-Office réside dans son rôle de conseiller auprès des ordres de l'Église, et sa seule peine consiste à recommander l'excommunication.
De Soya sumecte les lèvres. Il s'agit d'un terrible châtiment, Votre Excellence.
C'est vrai,
reconnaît le cardinal dont la voix a perdu toute ironie.
Un châtiment terrible, mais dont vous n'avez pas à vous inquiéter, mon fils. L'incident est clos. Votre nom et votre réputation n'en souffriront aucunement. Le rapport que le tribunal va adresser à Sa Sainteté vous exonère de tout blâme autre que, disons, une certaine insensibilité aux réactions d'un certain évêque provincial qui a suffisamment de relations à la curie pour avoir rendu cette comparution nécessaire.
De Soya n'ose pas encore exhaler l'air qu'il retient dans ses poumons. L'évêque Melandriano est un escroc, votre éminence. Les yeux vifs de l'Ourdus Ami se portent sur Monseigneur Oddi, puis de nouveau sur le visage du prêtre-capitaine.
Bien sûr, Federico. Nous le savons. Nous le savons depuis pas mal de temps déjà. Ce brave évêque dans sa lointaine cité flottante aura lui aussi son moment devant les membres du Saint-Office. Vous pouvez en être assuré. Et soyez également assurés que les recommandations de cette assemblée ne seront pas aussi indulgentes que dans votre cas.
Le cardinal se laisse aller en arrière dans son fauteuil en bois à dossier haut. Le bois ancien craque.
Parlons d'autre chose à présent, mon fils,
reprend le cardinal.
Êtes-vous prêt à reprendre votre mission là où elle a été interrompue?
Je suis prêt, votre éminence. De Soya est lui-même surpris par la spontanéité sincère de sa réponse. Jusqu'à ces dernières secondes, il était convaincu que cette partie de sa carrière et de son existence était terminée. Mais l'expression du cardinal Ourdus Ami est devenue très sérieuse, et même ses bajoues semblent avoir acquis de la fermeté.
« Parfait, »
répète-t-il.
« Mais j'ai appris que l'un de vos hommes avait trouvé la mort durant votre expédition sur Hébron. »
Un accident de résurrection, votre éminence. L'Ourdus Ami secoue la tête.
C'est terrible. Vraiment terrible.
Le lancier Rétig, murmure De Soya, éprouvant le besoin de ne pas laisser dans un obscur anonymat son compagnon disparu. C'était un excellent soldat. Les petits yeux du cardinal pétillent, comme si, soudain, les larmes montaient. Il regarde de Soya en disant
« Nous ferons quelque chose pour ses parents et sa sœur. Il avait également un frère qui avait atteint le grade de prêtre commandant sur Brescia. Le saviez-vous, mon fils ?»«
Non, votre éminence, » répond de Soya. Le cardinal hoche lentement la tête.
« Une grande perte pour tout le monde. »
Soupirant, il pose sa grosse main potelée sur son bureau nu. De Soya distingue les fossettes qui creusent le dos de cette main et il la considère comme si c'était une entité à part, une créature sans eau issue de la mer.
« Federico !» déclare l'Ourdusami de sa voix tonnante. « J'ai une suggestion à vous faire pour combler le vide créé à bord du Raphaël par la mort du lancier Rettig. Mais d'abord, nous devons discuter des raisons de votre mission. » « Savez-vous pourquoi nous devons à tout prix retrouver et capturer cette fillette ?»
De Soya se redresse sur sa chaise. « Votre éminence m'a expliqué que c'était la progéniture d'une abomination cybride et qu'elle constituait une menace pour l'Église, » dit-il. « En outre, elle pourrait être au service du technocentre des IA. » L'Ourdusami hoche la tête.
« Tout cela est exact, Federico, parfaitement exact. » Mais nous ne vous avons jamais expliqué la nature exacte de la menace qu'elle constitue, non seulement pour l'Église et la Pax, mais également pour toute l'humanité. Si nous vous renvoyons là-bas pour continuer votre mission, mon fils, vous avez le droit de savoir.
Au dehors, étouffé mais encore audible à travers les murs et les fenêtres du palais, deux séries de bruits soudains et distincts se font entendre simultanément. La canonnade de midi de la colline du Janicule, au bord du fleuve, dans la direction de Trastevere, et les pendules de Saint-Pierre qui sonnent leurs 12 coups. L'Ourdusami tire une antique montre des replis de sa robe pourpre, la consulte, hoche la tête d'un air satisfait, et la remet en place. De Soya attend. Chapitre 42. Il nous fallut un peu plus d'une heure pour franchir les galeries qui nous séparaient du père Glaucus et de la cité enchâssée, mais nous nous arrêtâmes à 3 reprises pour dormir un peu, et le voyage dans la pénombre des étroites galeries ne se serait pas trop mal passé si un spectre n'avait surgi pour enlever l'une des femmes du groupe. Comme dans tous les actes de violence, les choses se passèrent beaucoup trop vite pour être véritablement observables. À un moment, nous étions en train de cheminer, aînés, l'androïde et moi, au bout de la file indienne des Chichatuk, lorsqu'il y eut une explosion de glace accompagnée d'un mouvement. Je me figeais, certain qu'une mine avait éclaté sous les pas de quelqu'un, lorsque la silhouette enveloppée de fourrure qui marchait 2 rangs avant aîné disparut sans un cri. Je demeurais figé, le fusil à plasma dans ma main protégée d'une mitaine, mais inutilisable immédiatement, car la sécurité était en place. Le Chichatuk, le plus proche de moi, se mit à lancer des imprécations de rage et d'impuissance, tandis que plusieurs chasseurs se ruaient dans l'ouverture qui s'était formée, là où il n'y avait auparavant qu'une paroi de glace pleine. Aîné braquait déjà le rayon de sa lampe dans le boyau presque vertical, lorsque je m'avançais pour l'écarter, mon arme prête à tirer. 2 des Chichatuk s'étaient laissés glisser dans le boyau, en freinant leur chute avec les talons de leurs bottes et leurs poignards, qui faisaient jaillir des morceaux de glace au-dessus de leur tête. J'allais faire comme eux lorsque Kushiat me saisit par l'épaule en criant « Kché ! Kachetashi !» Je connaissais suffisamment leur langue en ce 4e jour pour comprendre qu'ils m'interdisaient d'y aller. J'obéis, mais sortis ma torche laser pour éclairer les chasseurs hurlants qui se trouvaient déjà à 20 mètres au-dessous de nous et qui disparurent de notre vue lorsqu'ils prirent un nouveau boyau qui continuait presque à l'horizontale. Au début, je crus qu'il s'agissait d'un effet de la couleur rouge du laser, mais je m'aperçus que la paroi du puits vertical était entièrement tapissée, comme peinte, d'une couche de sang vermeil. Les ululations des Chichatuk continuèrent même lorsque les chasseurs revinrent bredouilles parmi nous. Je compris qu'ils n'avaient pas trouvé trace du spectre ni de sa victime, à l'exception du sang, de sa fourrure déchiquetée et du petit doigt de sa main droite. Kushtu, celui que nous considérions comme le sorcier de la Horde, s'accroupit pour baiser le doigt sectionné, puis enfonça la pointe d'un couteau en os dans son propre avant-bras, jusqu'à ce que le sang coule sur le doigt coupé. Il prit alors celui-ci avec précaution, presque avec respect, pour le déposer dans son sac en cuir. Les ululations cessèrent presque immédiatement. Chiaku, le grand guerrier à la robe de spectre tachée de sang, elle était à présent doublement maculée, car il faisait partie de ceux qui s'étaient élancés dans le boyau, se tourna vers nous et nous harangua longuement tandis que les autres mettaient leur paquetage sur leur dos, rangeaient leurs javelots et reprenaient leur marche silencieuse en file indienne. Tandis que nous gravissions la pente légère de la galerie, je ne pouvais m'empêcher de me retourner de temps à autre pour regarder le trou au contour déchiqueté par où le spectre avait surgi. L'ouverture était déjà invisible dans l'obscurité qui nous suivait partout. Comme je savais que ces animaux vivaient à la surface et descendaient dans les galeries presque uniquement pour chasser, leur présence ne m'avait causé jusqu'ici aucune inquiétude. Mais à présent, même la glace du sol me semblait insidieuse, et chaque fissure ou recoin des parois de la voûte menaçait de laisser passer un spectre. Je m'aperçus que j'essayais de marcher sur la pointe des pieds, comme si cela allait m'éviter de passer à l'endroit où un tueur était peut-être tapi. Malheureusement, il n'est pas facile d'avancer sur la pointe des pieds sur une planète comme Sol Draconi Septem. « Achéné, » fit la silhouette emmitouflée de Abétique. « Je n'ai pas compris ce que disait Ashiaku. Quelque chose qui concerne les nombres, je crois. » Le visage de la fillette était plus qu'à moitié dissimulé sous les dents de spectre de sa robe. J'avais appris depuis peu que ses vêtements étaient confectionnés à partir de jeunes spectres, des bébés, et le spectacle des bras blancs de l'épaisseur de mon torse émergeant de la paroi de glace, prolongé par des griffes de la longueur de mon avant-bras, avait suffi à me donner une idée de la taille de ces monstres. Parfois, me disais-je en essayant de marcher, avec la sécurité de mon fusil au plasma désactivé, le plus légèrement possible sous la gravité écrasante de la planète, la route du courage la plus courte passe par l'ignorance absolue.
Je suppose donc qu'il faisait allusion au fait que l'effectif du groupe ne correspond plus à des nombres premiers,
était en train de dire aîné à l'androïde.
Avant l'enlèvement, nous étions 23, plus 3, ce qui allait très bien. Mais maintenant, il va falloir qu'il fasse quelque chose, ou je ne sais pas. Ça risque de porter malheur.
Apparemment, ils résolurent le problème en envoyant Chiaku en éclaireur. Peut-être se porta-t-il volontaire pour se séparer du groupe jusqu'à ce qu'il nous laisse dans la cité glacée. 25, en tant que nombre impair, était provisoirement acceptable. Mais sans nous, le groupe serait réduit à 22, ce qui était interdit. Je laissai leur casse-tête sur les nombres premiers au Chichatuk lorsque nous arrivâmes en vue de la cité. Ce fut la lumière qui nous frappa tout d'abord. Nos yeux, au bout de quelques jours, s'étaient si bien habitués à la lueur du Chushkituk, le brasero en forme de mitre, que même la faible lumière de nos torches, quand nous les allumions, nous aveuglait. Celle qui se dégageait de la cité enchâssée était réellement douloureuse. À une époque, la construction devait être en acier ou en plastacier, avec des panneaux de verre intelligents. Elle devait avoir une hauteur de 70 étages et donner sur la verdure d'une agréable vallée terraformée. Sans doute la rivière coulait-elle au sud, à 500 mètres de là. Aujourd'hui, cependant, notre galerie débouchait sur un trou dans la glace situé à peu près à hauteur du 58e étage et des avancées du glacier d'atmosphère gelée avaient courbé la carcasse d'acier du gratte-ciel et trouvé leur chemin vers l'intérieur en divers endroits. Mais la structure avait résisté, et ses étages supérieurs émergeaient peut-être à la surface du glacier, dans l'obscurité d'un vide quasi total. Le plus étonnant, cependant, c'était qu'elle était toujours illuminée. Les Chichatuks s'arrêtèrent devant l'entrée en s'abritant les yeux de la lumière et en ululant d'une manière très différente de ce qu'ils avaient fait entendre quand la femme avait été enlevée. C'était plutôt un signal. Pendant que tout le monde attendait, je profitais de l'occasion pour examiner la carcasse éventrée d'acier et de verre, avec ses dizaines de lanternes accrochées partout à chaque étage. La glace était suffisamment mince à cet endroit pour que nous puissions contempler, entre nos pieds, l'enfilade des étages inférieurs aux fenêtres illuminées. Le père Glaucus s'avança lentement vers nous à travers un espace mi-bureau, mi-caverne de glace. Il portait la longue soutane noire et le crucifix que j'associais aux jésuites du monastère des environs de Port-Romance. Je vis que le vieillard était aveugle. Ses yeux, rendus laiteux par la cataracte, étaient aussi opaques que des pierres. Mais ce n'est pas cela qui me frappa au premier abord chez le père Glaucus. Il était très âgé, avec des cheveux blancs et une barbe de patriarche. Lorsque Cushiat lui adressa la parole, ses traits s'animèrent comme s'il sortait de transe, ses sourcils neigeux s'arquèrent, et son large front se plissa tandis que tout son visage s'épanouissait en un large sourire. Cela peut vous sembler bizarre, mais le père Glaucus n'avait absolument rien de grotesque, ni dans sa cécité, ni dans la blancheur éblouissante de sa barbe, ni dans sa peau tannée, ridée et tavelée, ni dans ses lèvres desséchées. Il ressemblait tant à ce qu'il était que les comparaisons tombent à plat. J'avais quelques réticences concernant cette rencontre avec Glaucus. Je craignais qu'il ne soit en relation avec la Pax. Et en voyant qu'il s'agissait vraiment d'un prêtre, j'aurais dû entraîner la fillette et l'androïde avec moi et repartir avec les Chichatuks. Mais aucun de nous trois ne semblait vraiment désireux de repartir. Cet homme n'appartenait pas à la Pax, c'était le père Glaucus, et il ne représentait que lui-même. C'est ce que nous devions apprendre quelques minutes à peine après notre arrivée. Pour commencer, sans qu'aucun de nous ait parlé, le prêtre aveugle sembla s'apercevoir de notre présence. Après avoir dit quelques mots à Cushiat et à Chichticia dans leur langue, il pivota soudain vers nous trois, les bras tendus, les paumes en avant, comme s'il était capable de capter notre chaleur. Puis il s'avança vers nous, à la limite de son bureau et de la caverne de glace d'où nous venions. Le père Glaucus marcha sans hésiter sur moi, posa une main osseuse sur mon épaule et articula nettement, en anglais du Retz,
« Tu es celui qui devait venir. »
Il m'a fallu du temps, des années en fait, pour donner toute la perspective voulue à cette formule. À l'époque, je me disais simplement que le vieux prêtre était aussi fou qu'aveugle. L'idée des Chichatuks était de nous laisser quelques jours avec le père Glaucus dans sa tour subglaciale pendant qu'il vaquait à d'autres occupations. Aîné et moi, nous nous doutions qu'il s'agissait principalement de régler la question cruciale des nombres premiers. Ensuite, la Horde viendrait nous reprendre ici. Nous avions réussi à leur expliquer par signe que nous voulions démanteler le radeau pour le transporter en aval jusqu'au portail d'Istran suivant. Les Chichatuks avaient paru comprendre, c'est-à-dire qu'ils avaient hoché la tête en prononçant le mot qu'ils utilisaient pour marquer leur accord. Chia. Avec force geste, nous avions indiqué notre intention de franchir la deuxième arche avec le radeau. Si j'avais bien interprété leur réponse par signe et par la parole, le voyage à pied à la surface demanderait plusieurs jours et nous conduirait dans des secteurs infestés de spectres arctiques. Je crus comprendre qu'ils me promettaient d'en discuter de nouveau après avoir résolu l'importante question de l'équilibre de la Horde, ce qui signifiait en clair qu'il fallait qu'ils trouvent un nouveau membre ou qu'ils en perdent trois. De quoi nous laisser rêveurs. Quoi qu'il en soit, nous resterions avec le père Glaucus jusqu'au retour de la Horde. Le prêtre aveugle bavarda quelques minutes de manière animée avec les chasseurs, puis les accompagna jusqu'à l'entrée de la caverne de glace, où il demeura, l'oreille tendue, longtemps après que la faible lueur du brasero eut disparu au loin. Il revint alors vers nous pour nous palper de nouveau, sur le visage, les épaules, les bras et les mains. J'avoue que je ne me suis jamais senti scruté aussi intensément. Lorsqu'il prit le petit visage d'aîné entre ses deux mains, il murmura
« Un enfant humain. Je ne me serais jamais attendu à retrouver un visage d'enfant. »
Je ne comprenais pas pourquoi il disait cela. « Et les Chichatuks ? » demandai-je. « Ils sont humains. Ils doivent bien avoir des enfants. » Le père Glaucus nous guida dans les profondeurs du gratte-ciel, puis nous grimpâmes un escalier qui conduisait à un appartement chauffé où il avait, de toute évidence, établi ses quartiers. L'endroit était illuminé par des lanternes qui brûlaient les mêmes tablettes rougeoyantes que celles des braseros des Chichatuk, à cette exception près qu'il y en avait ici des centaines au lieu d'une poignée. Le mobilier était très confortable. Il y avait dans un coin un vieux lecteur de disques audio, et la paroi intérieure était tapissée de livres, chose que je jugeais tout à fait incongrue chez un aveugle.
« Les Chichatuk ont bien des enfants, » me dit le vieillard, « mais ils ne leur permettent jamais d'accompagner les groupes qui vont si loin au nord. »«
Pourquoi pas ?»«
À cause des spectres, qui sont extrêmement nombreux au nord de l'ancienne limite de terraformation. »
Je croyais que la survie de la Horde dépendait d'eux. Le vieillard hocha la tête en se lissant la barbe. Elle était dense, d'une blancheur éclatante, et assez longue pour dissimuler son col romain. Sa soutane, soigneusement rapiécée, s'effrangeait en plusieurs endroits.
« Mes amis, les Chichatuk dépendent des bébés spectres pour tout ce qui concerne leur survie, me dit-il. Mais le métabolisme des adultes est tel que leur peau et leurs os ne peuvent leur servir à rien. »
Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais je le laissais continuer.
Les spectres, de leur côté, raffolent des enfants humains. C'est la raison pour laquelle les Chichatuk s'étonnent de la présence de notre jeune ami sur ce territoire.
« Où sont leurs enfants ?»
demanda Aîné.
« À plusieurs centaines de kilomètres au sud, avec les hordes de puériculture. Le climat est plus tropical. La glace ne fait que 30 ou 40 mètres d'épaisseur, et l'atmosphère est presque respirable. »
Pourquoi les spectres n'y vont-ils pas à la chasse aux enfants ? Demandai-je.
Le terrain leur est défavorable. Il y fait beaucoup trop chaud.
Dans ce cas, pourquoi les Chichatuk ne se réfugient-ils pas tous au sud pour... Je m'interrompis soudain. Le froid et la gravité avaient dû me rendre encore plus stupide que d'habitude.
Exactement,
me dit le père Glaucus en voyant, d'après mon silence, que j'avais compris.
Les Chichatuk dépendent entièrement des spectres. Les hordes de chasseurs, comme celle de notre ami Kushiat, prennent de terribles risques pour alimenter les puériculteurs en peau, viande et outils. Sinon, c'est la famine. Les Chichatuk n'ont pas beaucoup d'enfants, mais ils leur sont précieux. Comme ils disent, « Utchaituk aishit chakut kushit ».
Plus sacré, ce doit être à peu près ça, que la chaleur,
traduisit Aîné.
Exactement, fit le vieux prêtre. Mais pardonnez-moi, j'oublie les bonnes manières. Je vais vous conduire à vos chambres. J'en ai plusieurs que je laisse meubler et chauffer, bien que vous soyez mes premiers invités non Chichatuk depuis une cinquantaine d'années standard, je pense. Pendant que vous vous installerez, je m'occuperai de préparer le dîner.
Chapitre 43. Au beau milieu de ses explications sur la véritable raison de la mission de De Soya, le cardinal Lourdussamy se laisse aller en arrière sur son trône et agite une grosse main molle en direction du haut plafond.
« Que pensez-vous de cette salle, Federico ?»
Le père capitaine, qui s'apprêtait à entendre d'importantes révélations, ne peut que battre plusieurs fois des paupières en levant la tête. Cette grande salle est tout aussi décorée que les autres pièces de l'appartement Borgia. Un peu plus même, se dit-il, car les couleurs sont moins passées, plus vivantes. C'est alors qu'il s'aperçoit de la différence. Ces fresques et tapisseries sont modernes. Elles représentent le pape Jules VI en train de recevoir le cruciforme des mains d'un ange du Seigneur, ou bien Dieu le Père lui-même, penché en avant, comme en écho du plafond de la chapelle Sixtine peint par Michel-Ange, pour conférer le sacrement de la résurrection à Jules. Il distingue aussi le malheureux antipape Téliard Ier, qu'un ange armé d'une épée flamboyante est en train de bannir. D'autres décorations du plafond et tapisseries murales proclament la gloire du premier grand siècle de la résurrection de l'Église et de l'expansion de la Pax.
Le plafond d'origine s'est effondré en 1500 après Jésus-Christ.
Explique Lourdussamy de sa grosse voix.
Il a failli tuer le pape Alexandre. La majeure partie des décorations ont été perdues. Léon X a tout fait reconstruire après la mort de Jules II, mais le travail était inférieur à l'original. Sa sainteté a commandé ce nouvel ouvrage il y a 130 années standard. Vous remarquerez la fresque centrale. Elle est de la main de Alamangena, du vecteur Renaissance. La tapisserie de l'ascension de la Pax que vous voyez ici est due à Shiroku. La restauration architecturale a été effectuée par la crème des artisans de Passem, parmi lesquels figure en bonne place Peter Baines Kort Bilgrut.
De Soya hoche poliment la tête. Il n'a pas encore compris le rapport avec leur discussion précédente. Peut-être le cardinal, comme toutes les personnes qui détiennent un peu de pouvoir, a-t-il pris l'habitude de digresser à sa guise parce que ses interlocuteurs n'osent jamais protester. Comme s'il lisait dans la pensée du prêtre-capitaine, Lourdus Samy laisse entendre un petit rire caquetant et pose sa main potelée sur la surface de cuir de la table.
« J'ai mes raisons de parler de ça, Federico, » murmure-t-il. « Êtes-vous d'accord pour dire que la Pax et l'Église ont apporté à l'humanité une ère sans précédent de paix et de prospérité ?»
De Soya hésite. Il a des connaissances en histoire, mais il n'est pas tout à fait sûr que cette ère soit sans précédent. Quant à la paix, le souvenir des forêts orbitales en flammes et des planètes ravagées hante toujours ses nuits. L'Église et ses alliés de la Pax ont certainement amélioré la situation de la plupart des anciens mondes du Retz que j'ai eu l'occasion de visiter, votre éminence, répond-il, et nul ne peut nier les bienfaits sans précédent de la résurrection. La gorge de Lourdus Samy vibre d'un rire amusé.
Que les saints nous viennent en aide, un diplomate,
s'exclame-t-il avant de se frotter la lèvre supérieure.
Oui, oui, vous avez parfaitement raison, Federico. Chaque époque a ses imperfections et la nôtre est marquée par une lutte de tous les instants contre les extros et par un combat encore plus urgent pour établir le règne de notre Seigneur et Sauveur dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Mais comme vous le voyez,
sa main s'agite une fois de plus en direction des fresques et des tapisseries.
Nous sommes au cœur d'une renaissance aussi puissante et aussi authentique que celle qui nous a donné la chapelle de Nicolas V et toutes les autres merveilles que vous avez pu admirer au passage. Et cette renaissance est véritablement celle de l'esprit, Federico.
De Soya ne dit rien.
Mais cette abomination cherche à détruire toutes ces choses,
continue gravement Lourdus Samy.
Comme je vous le disais déjà l'an dernier, ce n'est pas un enfant que nous traquons, c'est un virus. Et nous savons à présent d'où il vient.
De Soya écoute toujours en silence.
Sa sainteté vient d'avoir une de ses visions,
continue le cardinal d'une voix si douce qu'elle est à peine audible.
Vous savez, je suppose, que le Saint-Père fait souvent des rêves que lui envoie Dieu.
J'ai entendu quelques rumeurs à ce sujet, votre éminence. Cet aspect magique de l'Église a toujours un peu rebuté De Soya. Il attend encore. Lourdus Samy écarte d'un revers de main les rumeurs fantaisistes.
Il est vrai que sa sainteté a eu des révélations vitales après des périodes de grand recueillement, de jeûne et d'extrême humilité,
dit-il gravement.
Ces révélations ont été la source de nos renseignements concernant le moment et l'endroit où l'enfant devait apparaître sur Hyperion. Sa sainteté ne s'était pas trompée quant au moment, n'est-ce pas?
De Soya incline la tête en signe d'assentiment.
Et c'est également l'une de ces révélations sacrées qui a poussé le Saint-Père à faire appel à vos services, Federico. Il a vu que votre destin et le salut de notre Église et de notre société étaient inextricablement liés.
Le père capitaine De Soya continue de regarder droit devant lui, sans ciller.
Récemment,
continue le cardinal de sa voix tonnante,
la menace pesant sur l'avenir de l'humanité lui a été révélé de manière beaucoup plus détaillée.
Le cardinal se lève. Lorsque Monseigneur Audi et De Soya s'empressent de l'imiter, le colosse leur fait signe de rester assis. De Soya obéit et suit des yeux la masse vêtue de rouge et de blanc
qui se déplace parmi les flaques de lumière de la salle obscure. Les joues du cardinal sont luisantes, ses petits yeux sont perdus dans l'ombre projetée par les spots du plafond.
Il s'agit en fait d'une grande offensive du technocentre, visant à nous détruire définitivement. Les entités mécaniques malveillantes qui ont causé la perte de l'ancienne Terre, parasité l'âme et l'esprit de l'humanité à travers leur distrance, et déclenché l'offensive des extros précédant la chute, sont de nouveau à l'œuvre. Cette progéniture de cybrides, cette aînée, est leur instrument. C'est la raison pour laquelle les distrans fonctionnent avec elle et ne laissent passer personne d'autre. C'est aussi la raison pour laquelle le démon qu'on appelle le Gritch a massacré des milliers de nos hommes et en massacrera peut-être bientôt des millions ou même des milliards. À moins qu'on ne l'arrête, ce succube va réussir à nous ramener sous le joug de la machine.
De Soya suit des yeux le cardinal, tandis qu'il quitte la lumière pour se placer dans l'ombre. Rien de tout cela n'est nouveau. Lorsque Lourdus Amy cesse momentanément de faire les 100 pas, il reprend.
Mais sa sainteté sait à présent que ce rejeton de cybride n'est pas seulement l'agent du centre, Federico. Elle est aussi l'instrument du dieu machine.
De Soya commence à comprendre. Lorsque l'Inquisition l'a interrogé sur les Cantos, son estomac s'est noué à la pensée du châtiment réservé à ceux qui ont lu le poème interdit. Mais même ce livre à l'index reconnaissait que les éléments du centre des IA travaillaient depuis des siècles à produire une intelligence ultime, c'est-à-dire une divinité cybernétique susceptible d'étendre rétrospectivement son pouvoir à travers le temps, dans tout l'univers, pour le soumettre. En fait, aussi bien les Cantos que l'histoire officielle de l'Église reconnaissaient l'existence de cette bataille à travers le temps entre un faux Dieu et notre Seigneur. Le cybride Kitz, ou les cybrides plutôt, car il y en avait eu un deuxième lorsqu'une secte du centre avait détruit le premier dans la mégasphère, avait été faussement représenté comme candidat au statut de messie de l'IU humaine, ce concept téliardien blasphématoire de Dieu humain évolué, dans les Cantos interdits. Le poème affirmait que l'empathie était la clé de l'évolution spirituelle de l'homme. L'Église avait corrigé cela en déclarant que la soumission à la volonté divine était la seule source de révélation et de salut.
« Par la révélation, continue Lourdus Amy, sa sainteté sait exactement où se trouve en ce moment même le rejeton cybride et ses complices. »
De Soya se penche en avant. Où, votre éminence ?
Sur le monde de glace abandonné de Sol Draconis Septem,
fait la grosse voix du cardinal.
Sa sainteté est formelle. Et elle est également formelle en ce qui concerne les conséquences si quelqu'un n'arrête pas cette fillette au plus vite.
Lourdus Amy contourne le long bureau et vient se placer devant le prêtre-capitaine. De Soya lève la tête et voit le rouge vif et le blanc éclatant de son costume, tandis que deux petits yeux ronds le transpercent.
« Elle est à la recherche d'alliés »,
reprend la voix grave du cardinal.
« Ceux qui doivent l'aider à détruire la Pax et à profaner l'Église. Jusqu'à présent, elle n'était qu'un virus mortel dans une région déserte, un danger en puissance mais contrôlable. D'ici peu, si elle nous échappe encore, elle va atteindre sa pleine maturité et sa pleine puissance. La puissance du malin. »
Au-dessus de l'épaule luisante du cardinal, De Soya voit des figures qui se tordent dans les fresques du plafond.
« Chacun des vieux portails d'Istran s'ouvrira simultanément, » continue le cardinal. « Le démon Gritch, reproduit à 1 million d'exemplaires, fera irruption chez les chrétiens pour commencer le massacre. Les extros disposeront d'une puissance décuplée par les armes du technocentre et par les redoutables technologies IA. Déjà, ils ont utilisé les machines subcellulaires pour se transformer en quelque chose de plus et de moins que des humains. Ils ont renoncé à leurs âmes immortelles, en échange d'appareils qui leur permettent de s'adapter à l'espace, de se nourrir de radiations solaires, et de survivre comme des plantes dans l'obscurité. Leurs capacités guerrières seront multipliées par mille avec les moteurs secrets du centre. Cette redoutable puissance n'est nullement niée par l'Église. Des milliards d'êtres humains mourront de la vraie mort. Leurs cruciformes leur seront arrachés. Leurs âmes seront déchirées de leur corps comme des cœurs vivants dans les poitrines. Des dizaines de milliards de vies prendront fin. Les extros mettront la Pax à feu et à sang. Ils ne laisseront derrière eux que des ruines, comme les Vandales et les Visigoths. Ils détruiront Passem, le Vatican et tout ce que nous connaissons. Ils tueront la paix. Ils contreront la vie et profaneront le principe de la dignité individuelle.
De Soya ne fait aucun commentaire.
Toutes ces choses ne se produiront pas obligatoirement, continue Lourdu Sami. Sa sainteté prie chaque jour pour qu'elles ne se produisent pas. Mais nous vivons en des temps périlleux, Federico. Périlleux pour l'Église, pour la Pax et pour l'avenir de la race humaine. Le Saint-Père a vu ce qui pourrait se passer et il a dédié nos vies et notre honneur sacré de principe de l'Église au combat qu'il nous reste à mener pour empêcher la concrétisation d'une réalité aussi terrible.
De Soya lève la tête tandis que le cardinal se penche en avant.
À ce stade, Federico, j'ai une révélation à vous faire. C'est une chose que nos milliards de fidèles n'apprendront que dans quelques mois. Au moment même où je vous parle, au synode épiscopal interstellaire, Sa Sainteté est en train d'annoncer l'instauration d'une croisade.
Une croisade ? Répète De Soya tandis que même l'imperturbable Monseigneur Audi laisse échapper un grognement de surprise.
Une croisade contre la menace extro,
reprend le cardinal Lourdu Sami de sa grosse voix de basse.
Durant des siècles, nous sommes restés sur des positions défensives. Même le grand mur est un dispositif de défense qui consiste à interposer des chrétiens, des vaisseaux et des vies humaines sur le chemin des agressions extro. Mais à partir de ce jour, grâce à Dieu, l'Église et la Pax vont passer à l'offensive.
« De quelle manière ?» demande De Soya. Il sait que des combats font déjà rage dans les régions grises intermédiaires qui séparent les domaines de la Pax et des extros, emplissant des milliers de parsecs de mouvements de flotte dans tous les sens. Mais compte tenu du déficit de temps, il faut 2 ans de vaisseau pour faire le voyage de Passem aux régions extrêmes du Grand Mur, soit plus de 20 ans de déficit. Il est difficile, sinon impossible, d'assurer une coordination des mouvements offensifs ou défensifs. Lourdu Sami esquisse un sourire grave avant de répondre.
Au moment où je vous parle, tous les mondes de la Pax et du Protectorat ont reçu la demande, l'ordre, de consacrer une partie de leurs ressources planétaires à la construction d'un gros vaisseau, un pour chaque planète.
Mais nous avons déjà des milliers de vaisseaux. Commence le prêtre-capitaine, qui laisse brusquement sa phrase en suspens.
« Je sais, » murmure le cardinal. « Mais ces vaisseaux bénéficieront de la nouvelle technologie archange. Ils ne seront cependant pas comme votre Raphaël dont l'armement est léger. Il s'agira des croiseurs de combat les plus redoutables que ce bras spiralé ait jamais connu. Capable de se translater n'importe où dans la galaxie en moins de temps qu'il n'en faut à un vaisseau de descente pour grimper en orbite. Chaque croiseur portera le nom de sa planète. Les équipages seront composés d'officiers de la Pax, dévoués comme vous-même, ainsi que d'hommes et de femmes prêts à connaître la mort et à recevoir la résurrection autant de fois qu'il le faudra. Et chaque vaisseau sera capable de détruire un essaim entier.
De Soya hoche la tête.
C'est la réponse du Saint-Père à la révélation de la menace représentée par l'enfant, votre éminence.
Lourdu Sami retourne s'asseoir sur son trône derrière son bureau comme s'il était épuisé.
En partie, Federico. En partie. La construction de ces nouveaux vaisseaux commencera dans la prochaine décennie standard. La technologie est complexe, très complexe. En attendant, le succube cybride continue de propager la maladie comme un virus malfaisant. Cette partie-là dépendra de vous et de votre équipage, renforcé de traqueurs de virus.
Renforcé ? Répète de Soya. Le sergent Grégorius et le caporal Key ne pourront pas en faire partie ?
Mais oui, fait le cardinal. Ils ont déjà reçu leur affectation.
De quel renforcement voulez-vous parler dans ce cas ? Insiste de Soya. Il craint que l'un des cardinaux du Saint-Office ne lui soit imposé à bord. Lourdus Ami ouvre sa grosse main comme pour dévoiler le secret d'un coffre au trésor.
Il s'agit d'une simple adjonction à votre équipage, Federico, dit-il.
Un officier de l'Église ? Interroge le prêtre capitaine qui est en train de se demander si le disque papal ne va pas être confié à quelqu'un d'autre. Lourdus Ami secoue la tête. Ses bajoues suivent mollement le mouvement.
Un soldat, père capitaine de Soya. Issu d'une nouvelle race de guerriers spécialement adaptés pour constituer la nouvelle armée du Christ.
De Soya ne comprend pas. Le cardinal a l'air de dire que la réponse du Vatican à la nanotechnologie extro consiste à introduire des biomodifications de son cru, ce qui défierait toutes les doctrines de l'Église qui lui ont été inculquées. Une fois de plus, le cardinal semble lire dans les pensées du prêtre-capitaine.
« Ne vous méprenez pas, Federico. Il s'agit uniquement de certains rehaussements et de beaucoup d'entraînement dans une nouvelle branche de la Pax militaire. Mais l'individu demeure totalement humain et chrétien. »
« Un seul soldat ?» demande de Soya mystifié.
« Un guerrier. Et qui n'appartient pas à la chaîne de commandement de la Pax. » Le premier membre des légions d'élite qui seront le fer de lance de la croisade lancée aujourd'hui par sa sainteté.
De Soya se frotte le menton. Et il sera placé sous mon commandement direct, comme Grégorius et qui ?
Bien entendu,
fait Lourdus Ami en se laissant aller en arrière, les mains croisées sur sa bedaine.
Il n'y aura qu'une seule petite modification, jugée nécessaire par le Conseil du Saint-Office en accord avec sa sainteté. Elle aura son propre disque papal pour tout ce qui concerne les décisions militaires et les actions destinées à préserver les intérêts de l'Église.
Elle, répète de Soya sans comprendre. Si ce mystérieux guerrier et lui dispose de la même autorité papale, comment arriveront-ils à prendre la moindre décision ? La poursuite de la fillette jusqu'à présent a eu des aspects et des implications militaires à tous les niveaux, et chaque décision est allée dans le sens de la préservation des intérêts de l'Église. Autant être déchargé de cette mission que subir ce faux partage du commandement. Avant qu'il ait pu formuler ses objections, le cardinal Lourdus Ami se penche en avant et articule aussi bas que le lui permet sa voix de basse.
« Federico. » Sa sainteté vous voit toujours impliqué dans cette mission et responsable au premier degré. Mais notre Seigneur lui a révélé une terrible nécessité que le Saint-Père cherche à retirer de vos mains, sachant que vous êtes un homme de conscience.
Une terrible nécessité ? Répète de Soya. Mais il sait déjà exactement, avec une certitude totale et immédiate, de quoi il s'agit. Les traits de Lourdus Ami sont baignés de lumière et d'ombre tandis qu'il se penche sur son bureau.
Le succube procréé par un cybride doit être détruit, anéanti. Le virus doit être extirpé du corps du Christ. C'est le premier acte de chirurgie corrective qui doit être entrepris.
De Soya compte jusqu'à 8 avant de parler. À moi de trouver l'enfant. Dit-il, et à ce guerrier de la tuer.
Oui,
déclare Lourdus Ami. Il n'y a pas de discussion pour savoir si De Soya accepte cette nouvelle forme de mission. Les chrétiens régénérés, les prêtres, en particulier les jésuites,
et les officiers de la Pax ne pinaillent pas lorsque le Saint-Père et la Sainte Église leur assignent une mission. « Quand ferai-je la connaissance de ce guerrier, votre éminence ?» demande de Soya.
« Le Raphaël se translatera dès cet après-midi sur Sol Draconis Septem. »
Queen la petite voix de Monseigneur Oddi de la place qu'il occupe derrière de Soya sur sa gauche.
« Votre nouveau membre d'équipage est déjà à bord. »
« Puis-je vous demander son nom et son grade ?» fait de Soya en se tournant vers le Monseigneur. C'est le secrétaire cardinal Simon Augustino Lourdussamy qui lui répond.
« Elle n'a pas encore de grade officiel, père capitaine de Soya. Elle sera intégrée plus tard comme officier dans les rangs de la nouvelle Légion des Croisés. En attendant, vos hommes et vous pourrez l'appeler par son nom. »
De Soya attend.
« Qui est Némès ?»
continue le cardinal.
« Radamante Némès. »
Il darde le regard de ses petits yeux mobiles sur Lucas Audi. Celui-ci se lève aussitôt. De Soya s'empresse de l'imiter. L'audience est visiblement terminée. La main potelée de Lourdussamy se lève pour leur accorder sa bénédiction à trois doigts. De Soya courbe le front.
Puisse notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous préserver de tous les maux et vous accorder le succès dans votre très important voyage. Au nom de Jésus, nous en faisons la requête.
Amen,
murmure Monseigneur Lucas Audi. Amen, répète de Soya. Chapitre 44. Ce n'était pas qu'un simple immeuble pris dans la glace. Il y avait toute une cité enfouie ici dans l'atmosphère resublimée de Sol Draconis Septem, un petit morceau d'hubris de la vieille hégémonie, figé sur place comme un insecte emprisonné depuis longtemps dans l'ambre. Le père Glaucus était un homme doux et généreux. Nous eûmes au fait d'apprendre qu'on l'avait exilé sur Sol Draconis Septem en punition de son appartenance à l'un des derniers ordres téliardiens de l'Église. Bien que son ordre eût rejeté les dogmes fondamentaux de Téliard après la publication par Jules VI d'une bulle proclamant le caractère blasphématoire de la philosophie de l'antipape, il fut dissous et ses membres excommuniés ou expédiés au fin fond des territoires contrôlés par la Pax. Le père Glaucus n'employait jamais le mot « exil » à propos des 57 années standards qu'il avait passées dans ce tombeau de glace. Il préférait parler de sa mission. Tout en reconnaissant qu'aucun des Chichatuks n'avait manifesté le moindre désir de se convertir, le père Glaucus avouait qu'il ne recherchait pas particulièrement ce but. Il admirait leur courage, respectait leur probité et se disait fasciné par leur culture si durement acquise. Avant de devenir aveugle, il prétendait que ce n'était pas une simple cataracte, mais une cécité des neiges due à la combinaison du froid, du vide et des radiations qui frappaient la surface. Il avait longtemps erré avec plusieurs hordes de Chichatuks.
Ils étaient beaucoup plus nombreux à l'époque,
nous expliqua-t-il tandis que nous étions confortablement installés dans son bureau brillamment illuminé.
L'attrition a durement prélevé sa part. Sur des dizaines de milliers de Chichatuks qui peuplaient ces régions il y a 50 ans, il ne reste aujourd'hui que quelques centaines de survivants.
Les deux premiers jours, pendant qu'Aîné, Abétique et le prêtre aveugle discutaient, je passais une grande partie de mon temps à explorer la cité glacée. Le père Glaucus avait illuminé quatre étages d'un autre grand immeuble avec les lanternes alimentées par des tablettes.
« Pour maintenir les spectres à distance, nous avait-il expliqué, ils ont horreur de la lumière. »
Je découvris un escalier et commençai à descendre dans l'obscurité, ma lampe dans une main et mon fusil dans l'autre. Une vingtaine d'étages plus bas, je pénétrai dans une garenne de tunnels de glace qui communiquait avec d'autres immeubles de la cité. Quelques décennies plus tôt, le père Glaucus avait marqué les entrées de ces structures souterraines à l'encre lumineuse. Entrepôt, tribunal, centre de communication, dôme de l'hégémonie, hôtel et ainsi de suite. J'en explorais quelques-unes. Il y avait des traces de passages plus récents du prêtre. À ma quatrième exploration, je tombais sur une profonde caverne où les tablettes de combustible pour les lanternes étaient stockées. elles servaient à la fois de source de chaleur et de lumière. Elles étaient aussi la raison principale des visites régulières que lui rendaient les Chitchatuks.
« Les spectres leur fournissent tout sauf ça », nous avait expliqué le vieux prêtre. « Les tablettes leur donnent le peu de lumière et de chaleur dont ils ont besoin. Nous faisons une espèce de troc mutuellement profitable. Ils m'apportent de la viande et des pots et je leur fournis la lumière, la chaleur et la conversation à volonté. Je pense qu'ils ont apprécié ma compagnie au début parce que ma horde comptait un effectif égal au plus parfait des nombres premiers. Le chiffre 1. Au début, je tenais secret l'emplacement des tablettes, mais j'ai vite compris qu'ils ne me voleraient jamais, même si leur survie était en jeu, même si la vie de leurs propres enfants en dépendait. »
Il n'y avait pas grand-chose d'autre à voir dans la cité enchâssée. L'obscurité à ses profondeurs était totale, et ma lampe avait peine à la dissiper localement. Si j'avais eu, à un moment, l'espoir de découvrir un moyen, un chalumeau géant peut-être ou un tunnelier à fusion, d'arriver aisément à la rivière et à la deuxième arche, cet espoir fut très vite anéanti. La cité, à l'exception des quatre étages occupés par le père Glaucus, avec ses meubles, ses livres, sa lumière, ses vivres, sa chaleur et sa conversation, était aussi froide et morte que le neuvième cercle de l'enfer. Le quatrième jour, juste avant le repas de midi, je rejoignis mes deux compagnons dans le bureau du vieux prêtre avec qui ils étaient en train de bavarder. J'avais déjà examiné les volumes de la bibliothèque. Il y avait là des traités de philosophie et de théologie, des textes sur les mystères et l'astronomie, des études d'ethnologie avec plusieurs tomes sur la nouvelle anthropologie, des romans d'aventure, des guides de menuiserie, des ouvrages de médecine et des manuels de zoologie.
« Ma plus grande tristesse, lorsque j'ai perdu la vue, il y a 30 ans,
nous avait dit le père Glaucus en nous montrant fièrement sa bibliothèque,
a été de ne plus pouvoir lire mes chers livres. Je suis un prospéro frustré. Vous ne pouvez pas imaginer le temps qu'il m'a fallu pour monter ces 3000 volumes de la bibliothèque située 50 étages plus bas. »
L'après-midi, pendant que j'explorais et que Abétic allait lire dans un coin, Aîné faisait la lecture au vieux prêtre. À un moment, en entrant sans frapper dans la salle, je vis couler des larmes sur les joues du missionnaire. Ce jour-là, le prêtre nous raconta ce qu'il savait sur Téliard, le jésuite, de l'origine et non l'antipape évincé par Jules VI.
« Il était brancardier pendant la Première Guerre mondiale, » nous expliqua-t-il. Il aurait pu être aumônier et rester à l'arrière, mais il préféra être brancardier. On lui décerna des médailles pour son courage, et même la Légion d'honneur. »
Abétic, à ce moment-là, se racla poliment la gorge avant de demander.
« Excusez-moi, mon père, mais puis-je présumer à juste titre que cette Première Guerre mondiale dont vous parlez était un conflit pré-égyrien limité à l'ancienne terre ? »
Le prêtre à la barbe blanche sourit.
« vous le pouvez, mon cher ami. Début du XXe siècle, ce fut un terrible conflit, terrible. Et Téliard s'y trouva plongé jusqu'au cou. Sa haine de la guerre ne devait plus le quitter jusqu'à ses derniers jours. »
Le père Glaucus s'était fabriqué depuis très longtemps un fauteuil à bascule dans lequel il se balançait présentement devant un feu de tablettes combustibles qui brûlait lentement dans un foyer rudimentaire. Les braises dorées projetaient de longues ombres et dégageaient plus de chaleur que nous n'en avions ressenti depuis que nous avions passé le portail d'Istrance.
Téliard était un géologue et un paléontologiste, reprit le vieillard. Ce fut en Chine, une vieille nation-état de l'ancienne terre, mes amis, dans les années 1930, qu'il conçut ses théories sur l'évolution en tant que processus incomplet, mais obéissant à une finalité. Il voyait l'univers comme une tentative divine de fondre le Christ de l'évolution, le personnel et l'universel, en une seule et unique entité consciente. Dans chaque étape de l'évolution, Téliard de Chardin voyait un signe d'espoir, et même les phénomènes d'extinction de masse étaient une cause de réjouissance. La cosmogénèse, c'est le mot qu'il utilise,
survient lorsque l'homme devient le centre de l'univers. Et la néogénèse définit l'évolution continue de son esprit vers l'hominisation et l'ultra-hominisation, qui sont les différents stades de l'accession de l'homo sapiens à une humanité véritable.
« Pardonnez-moi, mon père, m'entendis-je dire, vaguement conscient de l'incongruité de cette discussion abstraite au milieu d'une cité glacée, sous une atmosphère gelée, alors que nous étions encerclés par le froid et les spectres mangeurs d'hommes. Mais l'hérésie de Téliard ne consistait-elle pas à soutenir que l'homme était capable de se transformer en Dieu ? Le prêtre aveugle secoua la tête sans pour autant cesser d'afficher un sourire bienveillant.
« De son vivant, mon fils, Téliard n'a jamais été sanctionné pour hérésie. En 1962, le Saint-Office, qui était entièrement différent du nôtre, croyez-moi, a publié un monitum.
Un quoi ? Demanda Aînée, assise sur le tapis devant le feu.
Un monitum est une mise en garde contre l'acceptation acritique des idées qu'il exprime. Or, Téliard n'a jamais écrit que l'homme allait devenir Dieu. Il a seulement soutenu que la conscience totale de l'univers faisait partie d'un processus d'évolution vers un moment qu'il appelait le point oméga, où toute la création, humanité comprise, ne ferait plus qu'un avec la divinité.
Téliard aurait-il inclus le technocentre dans cette évolution ? Demanda Aînée à voix basse, les mains nouées autour de ses genoux. Le prêtre aveugle cessa momentanément de se balancer et passa les doigts d'une main dans sa barbe pour la lisser.
Les spécialistes de Téliard discutent de cette question depuis des siècles, ma chère. Sans en être un, j'ai la quasi-certitude qu'il aurait inclus le technocentre dans sa vision optimiste.
Mais le centre descend des machines, objecta Abétic. Et sa conception de l'intelligence ultime est radicalement différente de celle du christianisme. C'est celle d'un esprit froid et détaché, doté d'une puissance de prédiction capable d'absorber toutes les variables. Le père Glaucus était en train de hocher la tête.
Mais un esprit pensant, mon fils, dont les progéniteurs du début, pleinement conscients, ont été créés à partir d'ADN vivant.
Créés à partir d'ADN pour jouer le rôle de simple calculateur !
M'exclamai-je, consterné qu'on puisse encore laisser le bénéfice du doute à des machines du centre quand il s'agissait d'âmes.
Et notre ADN, dans quel but croyez-vous qu'il ait été créé ? Qu'était-il censé faire durant les premières centaines de millions d'années ? Manger, tuer, procréer ? Étions-nous moins ignobles à nos débuts que les IA pré-égyriennes à base de silicium et d'ADN ? Comme Téliard l'aurait sans doute dit, c'est la conscience que Dieu a créée quand il a voulu accélérer le processus de connaissance de soi de l'univers, visant à lui donner la pleine compréhension de sa volonté.
Le technocentre a voulu se servir de l'humanité dans son projet de création du NIU, murmurai-je.
Et il a cherché à nous détruire.
Mais il ne l'a pas fait.
Ce n'est pas faute d'avoir essayé.
L'humanité a évolué tant bien que mal,
continua le vieux prêtre,
sans tenir compte de ses prédécesseurs ou d'elle-même. L'évolution a produit l'homme. Et celui-ci, au bout d'un long et laborieux processus, est en train de produire l'humanité.
Par empathie, murmura Aînée. Le père Glaucus tourna ses yeux aveugles dans sa direction.
Précisément, ma chère. Mais nous ne sommes pas les seuls avatars de l'humanité. Dès le moment où nos machines de calcul ont atteint le stade de la conscience de soi, elles ont commencé à faire partie du grand dessein. Elles ont beau résister, elles ont beau vouloir réaliser leur propre fin personnelle complexe. L'univers continue de tisser sa trame.
À vous entendre, l'univers avec ses processus ressemble à une machine, répliquai-je. Une machine programmée, inéluctable, impossible à arrêter. Le vieillard secoua lentement la tête.
Non. Non, surtout pas une machine, et surtout pas inéluctable. Si la venue du Christ nous a enseigné quelque chose, c'est bien que rien n'est inéluctable. L'issue est toujours soumise au doute. La décision d'aller vers la lumière ou les ténèbres nous appartient toujours. Elle appartient à nous comme à toutes les entités conscientes.
Mais Téliard pensait que l'empathie et la conscience finiraient par l'emporter ?
Demanda Aîné. Le père Glaucus agita une main osseuse en direction de la bibliothèque derrière elle.
Il doit y avoir un volume sur le troisième rayon à partir du haut. Il y avait un signé bleu à l'intérieur la dernière fois que je l'ai consulté, il y a 43 ans environ. Vous le voyez ?
Journaux, carnet de notes et correspondances de Téliard de Chardin,
lui aîné.
C'est bien cela, oui. Ouvrez-le à l'endroit du signé. Voyez-vous le passage que j'ai annoté ? C'est l'une des dernières choses que mes pauvres yeux ont vues avant que les ténèbres se referment.
L'entrée datée du 12 décembre 1919 ?
Oui. Lisez-la, je vous prie.
Elle rapprocha le volume de la lumière du foyer et lut.
Remarquez bien ceci. Aux diverses constructions humaines, je n'attribue aucune valeur définitive et absolue. Je crois qu'elles disparaîtront, refondues dans un tout nouveau inimaginable. Mais j'admets qu'elles ont un rôle provisoire essentiel, qu'elles sont des phases irremplaçables, inévitables, par où nous devons passer, nous ou la race, au cours de notre métamorphose. Je n'aime pas en elles leur forme particulière, mais leur fonction, qui est de construire mystérieusement, d'abord du divinisable, et puis par la grâce du Christ se posant sur notre effort, du divin.
Il y eut quelques instants d'un silence uniquement rompu par le léger sifflement des tablettes de combustible dans le foyer et par le craquement des dizaines de milliers de tonnes de glace qui nous dominaient et nous entouraient. Finalement, le père Glaucus déclara à voix basse
« C'est cet espoir de Téliard qui fut considéré comme une hérésie par notre pape. Ma croyance en cet espoir fut mon plus grand péché. Et cela ?»
Il fit un geste en direction de la façade de verre où se pressaient la glace et les ténèbres.
« C'est mon châtiment. »
Aucun de nous ne parla durant un bon moment. Le père Glaucus émit un petit rire et posa ses deux mains osseuses sur ses genoux.
« Mais ma mère m'a appris qu'il ne peut y avoir ni châtiment ni douleur là où il y a bonne chair, bons amis et bonne conversation, » reprit-il. « Ce dont nous sommes amplement pourvus à l'heure actuelle. Ashbétique, je vous appelle ainsi parce que votre autre titre ne vous fait guère honneur, en vous mettant à l'écart de l'humanité sous une fausse catégorie faussement inventée. Ashbétique. »
« Oui, Ashglaucus. »
Pourriez-vous rendre au vieillard que je suis le service d'aller dans la cuisine chercher le café qui doit être prêt? Je m'occupe du ragoût et du pain qui sont en train de réchauffer. À Chandimion?
Oui, père Glaucus.
Voulez-vous descendre dans la cave à vin, nous choisir la meilleure bouteille que vous y trouverez?
Je souris, sachant que le vieux prêtre ne me voyait pas. Et combien d'étages aurais-je à descendre pour trouver la cave, père Glaucus? Pas les 59, j'espère ? Il secoua la tête en montrant ses dents blanches à travers sa barbe.
« Je bois du vin à chaque repas, mon fils, et je serais en meilleure forme physique si je descendais chaque fois 59. Non, je suis bien trop paresseux pour cela. Je garde mon vin dans le placard qui se trouve à l'étage au-dessous, près du palier.
J'y vais, déclarai-je.
Je m'occupe de mettre la table,
murmura Aîné.
Et demain, c'est moi qui ferai la cuisine.
Nous nous séparâmes pour accomplir nos tâches.